Il n'est pas inconcevable qu'il soit possible de synthétiser les virus les plus horribles et contagieux que vous ayez jamais vus.
Liv, bienvenue au Festival des Lumières. Merci de m'avoir invité. Donc, je suppose que ma première question que je voulais poser est parce que c'est une grande partie de votre nouveau podcast, et c'est un sujet dont vous avez beaucoup parlé. Si vous pouviez peut-être me dire brièvement ce qu'est Moulik et pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer dessus? Ouais. Donc, Moulik vient à l'origine de cette, assez drôle, une vieille histoire biblique, sur cette horrible sorte de secte obsédée par la guerre qui était censée être si désespérée de gagner les guerres. Ils sacrifiaient leurs enfants dans une sorte de feu de joie ou dans une effigie enflammée de ce dieu démon qu'ils appelaient Moulik parce qu'ils pensaient qu'en faisant ce sacrifice ultime, cela leur conférerait toute la puissance militaire et la capacité de gagner leur guerre qu'ils pouvaient désirer. Et c'est en quelque sorte devenu ce concept de cette divinité qui est devenu synonyme de cette idée de compétition malsaine, comme les jeux compétitifs, peu importe comment vous voulez les appeler, où le monde se porte mal parce que ce jeu a existé. J'aime donc cette métaphore, car ce concept de compétition malsaine est, à mon avis, à l'origine de nombreux problèmes que nous observons sur Terre aujourd'hui. La compétition est une chose neutre. Elle peut être très bonne. Elle peut stimuler l'innovation. Elle peut faire courir les athlètes plus vite. Nous voyons que l'effort humain est souvent motivé par la compétition de manière positive. Mais si les structures d'incitation de certains environnements compétitifs créent des résultats qui, globalement, créent du tort. Un bon exemple serait de regarder ce qui se passe sur les médias sociaux en ce moment. Il y a une incitation massive. En fait, un exemple particulier que j'aime bien, ce sont ces filtres de beauté qui sont sur Instagram, sur TikTok, et je veux dire sur toutes les plateformes de médias sociaux en ce moment. Si vous essayez de devenir un influenceur, vous êtes incité à faire tout ce que vous pouvez pour que vos photos se démarquent. Et ces plateformes ont commencé à permettre aux gens d'utiliser ces filtres de beauté qui vont, par exemple, peaufiner vos images d'une manière qui va, vous savez, vous donner une peau plus lisse, des yeux légèrement plus grands et des seins plus gros, ou tout ce que vous voulez. Et parce que le truc, c'est que des photos plus sexy se traduisent par plus de likes et d'abonnés. Mais ces filtres, vous savez, je l'ai remarqué moi-même parce que, vous savez, je suis sur Instagram, je suis une fille. J'ai remarqué que lorsque j'utilisais ces choses, je n'aimais plus la photo d'origine. Il ne me plaisait plus à mon visage naturel. Et ce n'est pas comme si j'étais la seule personne à ressentir ça. Beaucoup de gens ont dit, ce n'est clairement pas bon pour la santé. Ça me rend malheureuse de les utiliser. Et pourtant, nous continuons à les utiliser quand même parce que les incitations concurrentielles poussent tout le monde à le faire. Vous savez, si vous voulez jouer le jeu de l'influence, vous devez utiliser toutes les stratégies et tous les outils possibles, surtout si vous pensez que tout le monde le fait. Cela crée donc une sorte de dynamique de nivellement par le bas. Et cette dynamique de nivellement par le bas est en quelque sorte le dieu de Moulik. C'est juste un autre terme pour cela. Il n'y a pas de nom très clair. Vous savez, certaines personnes appellent ça la tragédie des biens communs. C'est aussi un exemple de ce même genre de processus. On l'appelle parfois un dilemme social. En gros, je ne veux pas faire ce truc de merde, mais si je ne le fais pas, mon concurrent le fera quand même, alors autant finir par le faire. Je pense que c'est vraiment intéressant dans le cas des médias sociaux, et je suis curieux de savoir, dans quelle mesure vous pensez que c'est cette force de « Moulik ». Mais c'est aussi, vous savez, spécifiquement avec les médias sociaux, cela semble en quelque sorte explicite et totalement intégré dans la manière dont ces plateformes sont également structurées. Il y a donc la nature compétitive dans laquelle les gens interagissent. Mais c'est aussi, vous savez, le développement de ces plateformes, cela présente une sorte de philosophie sur la façon dont nous devrions valoriser les gens et la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Donc, dans quelle mesure est-ce que cela est en quelque sorte lié à la nature compétitive dans laquelle nous nous comprenons nous-mêmes au sein des médias sociaux, mais aussi au genre de tactique des entreprises de médias sociaux qui, vous savez, dans leur quête de profit, encouragent en quelque sorte ces aspects vraiment négatifs de notre existence et en quelque sorte ludifient nos relations, vous savez? Je pense que certaines entreprises de médias sociaux sont meilleures que d'autres. Je veux dire, j'ai été très ouvert sur le fait que je pense que TikTok utilise des tactiques vraiment merdiques, en particulier sur les jeunes. Comme eux, ce groupe démographique est composé de jeunes, et même d'enfants. Et pourtant, ils utilisent ce genre de trucs. Genre, je ne sais pas si les gens l'ont remarqué, mais de temps en temps, vos vidéos deviennent virales et il y a des preuves assez solides que c'est un coup de pouce artificiel qu'ils font. J'ai remarqué que la deuxième vidéo que j'ai postée quand j'ai créé un compte est devenue virale. Ce n'était même pas une très bonne vidéo, mais elle vous donnait une sorte de poussée de dopamine et vous savez, Je suis un joueur de poker. Je viens des casinos. C'est exactement la tactique que les casinos utilisent pour rendre les gens accros aux machines à sous. Ce sont ces récompenses intermittentes. Vous ne savez pas quand elles vont arriver, mais quand elles arrivent, vous savez, vous vous sentez vraiment bien. Alors vous voulez continuer à jouer. Ouais. Et c'est une tactique que TikTok utilise pour que les gens comme ça leur donnent ce petit avant-goût de la célébrité. Donc ils reviennent sans cesse pour en avoir plus et continuent à poster. C'est un peu comme la roue du hamster. Mais en même temps, nous devons nous rappeler que ces entreprises de médias sociaux sont en quelque sorte dans leur propre combat pour la survie, n'est-ce pas? Elles ont des incitations pour les actionnaires, elles doivent, vous savez, il y a ces incitations à court terme qu'elles doivent essayer d'optimiser. Donc, encore une fois, vous savez, je ne veux pas les déresponsabiliser lorsqu'elles font vraiment, je pense, des choses odieuses, mais en même temps, nous devrions également diriger notre agacement vers la nature même du jeu. Et le jeu lui-même, dans ce cas, on pourrait dire que c'est juste du capitalisme en général. C'est comme une économie capitaliste de l'attention. Encore une fois, le capitalisme est une question délicate parce qu'il existe de nombreuses formes de capitalisme qui créent clairement des destructions, vous savez, comme la dégradation de l'environnement. Les entreprises de boissons sont incitées à vendre autant de bouteilles de Coca-Cola ou autres ou de Pepsi qu'elles le souhaitent et se demandent, oh, quel est le moyen le moins cher de fabriquer beaucoup, beaucoup de bouteilles? En plastique. D'accord. Et le problème avec la manière dont ce jeu particulier est organisé au sein du capitalisme, c'est que les coûts sont externalisés vers le trou plus large. Nous nous retrouvons donc avec toute cette pollution dont nous ne savons pas quoi faire. Donc oui, d'une certaine manière, c'est une critique de la nature du jeu capitaliste, c'est qu'il n'internalise pas suffisamment ses externalités. Mais en même temps, c'est toujours le meilleur modèle que nous ayons eu. J'aurais certainement préféré vivre dans un monde capitaliste plutôt que dans un monde communiste, par exemple. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le critiquer. Ouais. Et donc il y a certains problèmes. Le problème avec le capitalisme, c'est qu'il essaie d'utiliser des mesures trop étroites qui ne tiennent pas suffisamment compte de toutes les différentes valeurs. Donc, comme vous le savez, maintenir une biosphère vivable, c'est qu'il y a ces incitations à court terme auxquelles les entreprises doivent adhérer. Et qui ne parviennent pas à saisir tous les dommages plus larges qui sont causés. Il y a aussi un travail distinct vers quelque chose que vous pouvez mesurer explicitement, ce qui ne capture souvent pas toutes les vastes complexités de ce que la chose elle-même implique, par exemple, comment mesure-t-on le prix d'un arbre? Ouais, vous savez, sous un plafond, vous savez, en essayant de le faire sous une métrique capitaliste, c'est comme, ok, combien puis-je le vendre sur le marché et les prix des voitures sur le marché, c'est du bois, peut-être, ouais, c'est du bois, en gros, c'est tout, ou peut-être la terre qu'il occupait que vous pouvez maintenant utiliser pour autre chose, comme l'agriculture ou autre. Mais il est évident qu'il y a plus de valeur dans un arbre que le simple prix de son bois. Comme il fait de la photosynthèse, il nous donne de l'oxygène, il maintient le sol en place. Vous savez, l'écosystème en dépend. Comme tout ce truc interligne qui est incroyablement complexe et que cette mesure unique ne parvient pas à saisir. Et c'est ce problème, c'est la critique du capitalisme, nous devons trouver comment rendre nos mesures de la valeur monétaire et des prix du marché plus précises, nous avons dit qu'elles devaient intégrer la valeur totale de cette chose. Ouais. Et comment pensez-vous que nous puissions même mettre en place un tel processus, car c'est infiniment complexe. Donc les gens ont des valeurs différentes, vous savez, ce qui est délicat avec les valeurs, c'est qu'elles sont souvent changeantes, mais les gens ont aussi leur propre opinion sur ce qui devrait être valorisé et comment cela devrait être valorisé. Donc essayer d'intégrer cela dans ce genre de système est presque impossible. Et je pense que le capitalisme lui-même nous donne manifestement ce système d'incitation qui, comme vous l'avez dit, est en quelque sorte truffé de nombreuses externalités négatives. L'une d'entre elles, la plus importante, est sans doute le changement climatique. Et je suis curieux parce que je sais que vous êtes un grand défenseur du fait d'être très conscient du problème d'alignement de l'IA. Nous avons des ressources limitées. Nous avons peu de temps pour les aborder. Lorsqu'il s'agit de classer les menaces existentielles auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'espèce, comment feriez-vous? Oui, non, c'est une excellente question. Et je veux dire que la réponse est que c'est très difficile. Cela dit, je pense que dans une certaine mesure, comme vous le dites, parce que nos ressources sont limitées, nous devons essentiellement trier les problèmes du monde de la même manière qu'une infirmière ou un médecin aux urgences, quand il y a environ 20 personnes qui arrivent, ils doivent dire « Eh bien, je suis désolé, mais cette personne saigne beaucoup, je sais, oui, vous avez eu le doigt coupé, mais cette personne a la jambe ouverte et c'est qu'elle présente un risque plus élevé ou autre chose, ou elle vient de faire une crise cardiaque. Vous devez faire ces compromis difficiles. Donc, pour ce qui est de savoir comment vous vous y prendriez, par exemple, d'accord, lequel devrions-nous prioriser? Je peux, cela dépend du point de vue. Je parle au niveau de l'espèce, pas au niveau individuel, car ce que quelqu'un devrait faire, disons que vous êtes passionné par tous ces problèmes, dépend de quelques autres choses, comme vos compétences. Qui connaissez-vous? Où votre réseau vous positionne-t-il déjà pour que vous puissiez avoir une influence ou faire changer les choses? Mais, eux, au niveau de l'espèce, la façon dont vous devez aborder cela est essentiellement la suivante. Quelle est l'ampleur du problème? Combien de personnes cela va-t-il affecter? Évidemment, si nous parlons de tous les risques existentiels, c'est-à-dire tout le monde et le futur Liteco également, n'est-ce pas? Donc, évaluons-en l'ampleur. La négligence comparative, et troisièmement, dans quelle mesure est-elle réellement résoluble? Qu'entendez-vous par négligence? Pardon, dans quelle mesure est-elle relativement négligée? Parce qu'il y en a certains sur lesquels personne ne se concentre. Ouais, là, vous savez, je suis extrêmement préoccupé par le changement climatique. Par exemple, en voyant l'état actuel de la banquise en Antarctique, ou autre. Cet été, j'ai vraiment eu l'impression de me dire « Oh mon Dieu !» en voyant ces graphiques. C'est tout simplement horrible.
Cependant,
comparé à un autre type de risque existentiel, par exemple, à la vitesse à laquelle la biologie synthétique évolue, en particulier maintenant que nous avons l'IA qui peut être utilisée en conjonction avec elle. Il n'est pas inconcevable qu'il soit possible de synthétiser les virus les plus horribles et les plus contagieux que vous ayez jamais vus, ou même un nouveau type d'agent pathogène. Et puis, le pouvoir de le faire se démocratise de plus en plus vite. Si vous regardez le coût du séquençage génétique, il y a 20 ans, il était de l'ordre de millions, et maintenant il est de quelques centaines, ou 50 dollars, ou quelque chose comme ça. Ces technologies incroyablement puissantes arrivent à une vitesse folle et deviennent de plus en plus accessibles à de plus en plus de personnes.
Ce qui constitue évidemment une énorme vulnérabilité pour notre civilisation.
Et vu la quantité d'argent dépensée aujourd'hui, je n'aime pas comparer ces choses, car je pense qu'une grande partie de l'argent devrait être consacrée au changement climatique, probablement pas assez. Mais si l'on compare l'ampleur du changement climatique, qui est en fait un problème à plus long terme, ne vous méprenez pas, il est très important que nous fassions les choses le plus rapidement possible, par rapport à quelque chose comme la biologie synthétique, qui évolue si vite qu'elle suit une courbe presque exponentielle. Elle ne fait que croître d'une fraction absolue maintenant. Vous avez vu que la coopération aurait pu aider un peu et faire prendre conscience aux gens de cela, mais ce n'est tout simplement pas suffisant, car les gens ne réalisent pas à quelle vitesse cette technologie évolue. C'est pour ça que je parle de négligence relative. Maintenant, si ça change et qu'il y a des tonnes d'argent investi dans ça, ça veut dire que d'autres choses sont négligées. Donc, et j'aurais dit que jusqu'à il y a 6 mois, l'IA entrait aussi dans la catégorie de la négligence extrême. J'ai travaillé avec des organisations qui parlaient de la sécurité de l'IA et essayaient de résoudre l'alignement de l'IA pendant des années, voire des décennies, et personne n'y prêtait attention. Et tout le monde disait, c'est à des kilomètres, des heures, des kilomètres. Depuis 6 mois, les gens ont réalisé, oh, merde, l'IA est presque là maintenant. Les gens en parlent. Puis-je demander au sein de ces organisations comment? Parce que vous avez évidemment donné des exemples de la façon dont les choses pouvaient rapidement devenir incontrôlables au cours de ces conversations qui ont eu lieu avant le point d'inflexion de l'IA générative et tout ce que nous voyons là-bas. Comment ce genre de menace s'est-il manifesté ou comment a-t-il été positionné comme une menace existentielle? Parce que les gens ont évidemment cette image d'un scénario de type Terminator où nous dépassons la singularité et il existe toutes sortes de représentations différentes de la manière dont l'IA influencera la société. Comment a-t-elle été conçue à l'époque? Je veux dire que cela est principalement venu de, vous savez, je pense, des gens. Je ne veux pas parler en leur nom, mais des gens que vous connaissez bien. Tout d'abord, Alan Turing a été la première personne à soulever ce problème en 1951.
Il a donné une conférence où, vous savez, il est sans doute l'un des plus grands penseurs des principes fondamentaux qui ait jamais vécu, n'est-ce pas? Et vous savez, en inventant l'ordinateur, etc. Il a dit, je peux voir le jour où ces ordinateurs deviendront si puissants qu'ils seront supérieurs et suprêmes aux humains eux-mêmes. Dans cette situation, cela placerait les humains dans une position très précaire.
Donc, c'est un peu comme l'argument darwinien classique, vous savez, si vous regardez l'histoire, chaque fois qu'un groupe plus faible, moins intelligent ou moins avancé rencontrait un groupe plus intelligent et plus avancé, cela ne fonctionnait généralement pas pour lui. Que nous soyons ou non partis activement en guerre et que nous les ayons tués ou que nous nous soyons simplement battus pour les ressources semble être la chose la plus plausible. C'est ça le truc. Ce n'est pas comme si une IA super puissante devait nous détester. C'est une sorte d'anthropomorphisation stupide. Ce n'est pas vraiment le problème. C'est plutôt que, par définition, si vous avez affaire à quelque chose de plus intelligent et de plus compétent que vous, vous ne pourrez pas prédire ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il pourrait vouloir faire, quels objectifs il pourrait atteindre, etc. Et cela ne signifie pas qu'il va certainement vous tuer, nous tuer. Je ne suis pas d'accord avec cette idée du genre, oh, le risque d'extinction est certain ou quelque chose comme ça. Non, Mais ce n'est certainement pas un problème négligeable, si vous regardez l'histoire et la façon dont fonctionne la concurrence.
S'il y a une quelconque pénurie de ressources ou si nous ne pensons pas que les fourmis sont quelque chose pour lequel nous sommes en compétition pour les ressources, mais nous n'hésitons pas à renverser une fourmilière et à y construire une maison. C'est comme si nous étions tout simplement inutiles.
Donc, vous savez, je pense qu'il nous incombe de faire en sorte que cette probabilité diminue. C'est tout. Pensez-vous que ce processus est déjà en cours, c'est-à-dire lorsque nous externalisons nos capacités logiques ou intuitives ou notre raisonnement vers des machines de plus en plus complexes? Vous savez, une divergence se produira naturellement parce que nous ne pourrons entrer que des mesures qui ne tiennent pas compte des externalités plus larges ou des choses qui pourraient arriver. Nous obtenons ce qui est facile à mesurer avec l'apprentissage automatique et, d'une certaine manière, la résolution du problème d'alignement se produit parce que nous nous écartons d'un avenir dans lequel nous prospérerons en tant qu'espèce et continuerons à le faire. Vous savez, nos objectifs pour l'avenir divergent en raison de la manière dont nous adoptons ces systèmes. Pensez-vous qu'il y ait quelque chose à dire sur le fait que cela se produise déjà maintenant? Oh, je pense que je veux dire, et juste comme ça, l'idée, la chose qui me vient sans cesse à l'esprit, c'est que nous sommes en train d'atrophier notre capacité à penser.
Ouais, parce que je discute avec mon autre moitié à ce sujet, j'utilise beaucoup parce qu'il me dit, oh, utilise juste Google Maps. Donc je veux dire, nous devons y arriver. Il me dit, eh bien, regarde sur Google. Je me dis, non, je veux conserver ma capacité à diriger, vous savez, à m'orienter, à me souvenir des directions, à avoir une carte dans ma tête et à naviguer. Et plus j'utilise quelque chose comme Google Maps ou une application de cartographie, je remarque que ce muscle décline. Et si nous devenons de plus en plus dépendants des LLM pour écrire des emails à notre place, nous ne savons pas si cela pourrait être bien. Cela pourrait être bien. Je ne dis pas que c'est définitivement un problème, mais nous ne savons pas dans quelle mesure notre cognition provient de l'acte de penser. Donc, si nous n'écrivons plus autant, nous ne penserons plus autant. Je pourrais donc imaginer un monde où notre intelligence et notre conscience seraient siphonnées par quelque chose d'autre, ce genre de mécanisme, qui deviendrait certainement plus fort et plus puissant, et où nous resterions les mêmes, voire déclinerions. Ouais, encore une fois, c'est une théorie darwinienne. Des vers ici. Ouais, parce que ce n'est même pas juste, eux, nos facultés critiques, mais aussi le fait que vous savez que vous devez en quelque sorte vous plier à un format particulier. C'est la même chose avec les médias sociaux, un peu comme si c'était une façon de vous présenter comme si on vous dictait quelque chose. Afin de faire partie de la structure plus large du réseau, vous avez besoin. Comment devrions-nous concevoir l'agentivité dans un monde où les algorithmes influencent autant la façon dont nous percevons et comprenons les autres et notre environnement? Vous savez, à l'origine, quand je me suis inscrit sur une plateforme comme celle-là, elle ne savait rien de moi. Ces algorithmes étaient également plus faibles. Et donc on m'a juste donné un genre de bruit aléatoire de trucs et puis mes préférences ont commencé à être en quelque sorte sélectionnées, restreintes et affinées. Mais oui, très comme ces algorithmes deviennent des algorithmes d'ailleurs qui optimisent l'engagement.
Ce qui sera évidemment en corrélation avec ce qui m'intéresse, mais est-ce nécessairement en corrélation directe avec ce qui est réellement bon pour moi en tant que tel, un apprenant, ou quelqu'un qui, vous savez, veut maintenir, vous savez, un choix maximal, en faisant des capacités et, vous savez, un agent de sa propre conscience? Ce léger écart entre ce que l'algorithme essaie d'accomplir, c'est-à-dire mon engagement, et ce que j'essaie d'accomplir, c'est-à-dire apprendre et aussi me divertir ou autre, mais être une personne entière et heureuse. Au fur et à mesure que ces algorithmes deviennent plus puissants, ce sera comme si les histoires se décomposaient, en termes de résultats réels que nous voulons. Mais aussi, je peux sentir mes pensées être canalisées dans une direction.
Juste à cause de ce qui m'intéressait il y a 6 mois. Je pense que, vous savez, en partie comme beaucoup de ces guerres tribales culturelles dans lesquelles nous vivons en ce moment, cette polarisation de la société est en partie due au fait que les algorithmes des médias sociaux veulent juste maximiser l'engagement. Ils veulent continuer à revenir pour toujours plus. Pas seulement les médias sociaux, les médias grand public sont tout aussi mauvais à cela. Ils veulent que les gens viennent à leur rencontre. Quel est le meilleur moyen de faire ça? Des histoires négatives qui plaisent à une base politique existante. Vous pouvez appeler ça une chambre d'écho si vous voulez. Ça va les énerver. C'est le moyen le plus efficace d'obtenir des clics et de l'engagement. Est-ce vraiment le meilleur moyen pour les gens ou pour le monde? Non, parce que ça a souvent un prix. Pas toujours, Mais, vous savez, encore une fois, c'est en quelque sorte orthogonal à des choses comme la nuance et la vérité.
Ouais,
c'est pour ça qu'il optimise l'engagement. Et c'est encore le même problème, ce n'est pas une mesure assez large pour que vous sachiez que vous sacrifiez ces autres valeurs à ce jeu de Moloch qui consiste à faire revenir les gens sur votre site d'actualité ou votre plateforme de médias sociaux.
Ouais,
voyez-vous un moyen pour nous de corriger ce comportement de Moloch, car il a en quelque sorte éviscéré librement le quatrième pouvoir d'une certaine manière. On dirait bien que c'est une mesure qui n'est pas assez large pour que vous sachiez que vous sacrifiez ces autres valeurs à ce jeu de Moloch qui consiste à faire revenir les gens sur votre site d'actualité ou votre plateforme de médias sociaux.
Ouais.
Voyez-vous un moyen pour nous de corriger ce comportement de Moloch, car il a en quelque sorte éviscéré librement le quatrième pouvoir d'une certaine manière. On dirait bien que c'est comme si on sacrifiait. Evie, nous sommes plus polarisés que jamais, car nous sommes plus séparés les uns des autres dans nos chambres d'écho. Pour aborder ce processus, pensez-vous qu'il faut en partie prendre conscience de l'effet de ces comportements bizarres, mais aussi de la réglementation des entreprises de médias sociaux? Oui.
Certainement. Ce que j'essaie de faire, c'est de sensibiliser les gens, de leur donner un langage pour qu'ils puissent comprendre le processus, la structure incitative et le piège. Je pense que la façon dont j'aime le plus l'appeler est en fait le « piège Moloch », parce que c'est ce que c'est. Les gens se retrouvent piégés dans ces situations, tout comme les entreprises le sont. La première étape, vous savez, parce que
ce qu'il faut pour s'en sortir, c'est
une forme de coordination. Et la première étape de la coordination, c'est d'être conscient que l'on est dans un problème de coordination en premier lieu. C'est un peu comme si on était dans un problème de coordination. C'est un peu comme ça que ça s'appelle. Ce que je fais en ce moment, c'est d'utiliser quelque chose comme la réglementation comme une forme de mécanisme de coordination. Oui, c'est un outil. Nous devons cependant être très prudents avec cela, car, malheureusement, je ne pense pas que nos institutions gouvernementales soient vraiment à la hauteur. Si nous n'avons aucune confiance dans les institutions censées garantir nos droits et nos libertés, et qu'elles nous sont en quelque sorte enlevées librement, presque avant que nous ayons eu la chance de les considérer comme des libertés à défendre, alors vers qui sommes-nous censés nous tourner? C'est pourquoi je me dis maintenant que c'est un peu ce que mon podcast veut dire, je ne veux pas trop faire la promotion de mon podcast, mais c'est vraiment la principale raison pour laquelle je le fais, parce que je me dis, si Moloch est le dieu des jeux perdants-perdants, quel est l'opposé de ce gagnant-gagnant? Gagnant-gagnant, guillemets double. Comment pouvons-nous avoir plus de gagnants-gagnants? Comment savons-nous que nous n'allons pas éradiquer la concurrence de notre monde? Et je ne pense même pas que nous devrions le faire. La concurrence peut être une belle chose, et elle peut créer de grandes choses. Tout ça. Mais il nous faut juste trouver un équilibre entre quand coopérer et quand entrer en compétition, dans le sens où globalement les externalités de tout cela sont positives. J'essaie donc d'interviewer les meilleurs penseurs possibles sur différents sujets, qui ont des perspectives différentes et ont leur propre interprétation de la compétition. Certains d'entre eux sont très compétitifs, d'autres non. Pour essayer d'obtenir une parallaxe de points de vue sur les façons dont nous pouvons essayer d'aborder ce problème afin de déterminer le type d'interaction, de structure sociétale et d'institution dont nous avons besoin pour que ces jeux se déroulent comme nous le souhaitons. Cela peut paraître un peu ambitieux et grandiose, mais c'est comme une expérience et un processus d'apprentissage pour moi, car je voulais que les réponses ne soient pas claires. Je peux vous indiquer des penseurs qui, je pense, étudient très bien ce sujet. John V, Daniel Smackdenburger, Samantha Sweetwater. Il y a juste beaucoup de gens qui sont comme ça. Des penseurs systémiques profonds qui peuvent vraiment bien voir l'ensemble du tableau. Et c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons juste besoin que le plus de personnes possible soient capables de prendre du recul et de voir les choses sous un maximum de dimensions. Alors, quelque chose d'émergent va arriver, évidemment, parce que vous avez déjà été un défenseur d'une sorte de prise de décision rationnelle.
Ouais.
Donc, vous savez, le terme rationnel, je pense que la définition classique, c'est que si nous avons ces deux modes de pensée, le classique, le plus
intuitif, où l'on se demande combien font 5 plus 5, c'est 10. Ce mode de pensée immédiat, où il y a beaucoup de traitements parallèles inconscients, et puis vous avez l'autre, ce qu'on appelle souvent le système 2, qui est comme la logique linéaire, selon laquelle si ceci, alors cela, donc ceci, granulaire.
Exactement granulaire, c'est plutôt comme un traitement linéaire ou en série. Pourquoi pensez-vous que les gens hésitent à prendre ce dernier type de décision, à partir d'un processus linéaire ou en série? Pourquoi pensez-vous que les gens hésitent à prendre ce dernier type de décision? Une perspective philosophique? Je pense que les gens ont cette sorte de version plus profonde, vous savez, je veux être guidé par mes caprices et mes intuitions. Là où vous avez manifestement fait valoir qu'il y a beaucoup de choses auxquelles vous pouvez penser, et si vous y réfléchissez d'une manière plus probabiliste, vous obtiendrez probablement de meilleurs résultats pour vous-même. Je suis curieux de savoir pourquoi vous pensez que les gens hésitent à adopter ce genre de vision plus probabiliste du monde. Ouais, je pense que la raison principale, honnêtement, c'est que c'est vraiment difficile et c'est parfois un peu maladroit. Ce n'est pas amusant. C'est agaçant. Vous savez, si vous essayez de décider quelle maison acheter, quel cheminement de carrière choisir, c'est, à bien des égards, je ne dis pas que vous ne devriez pas écouter votre intuition, vos intuitions du tout si elles sont très fortes sur quelque chose. Mais, en même temps, Les intuitions fonctionnent mieux lorsqu'elles sont basées sur beaucoup de choses. Données, et vous savez que c'est un type de décision que vous avez déjà prise de nombreuses fois. Mais les gens l'ont rarement fait, mais vous savez, pour les grandes choses de la vie, par définition, vous ne faites cela qu'une ou deux fois dans votre vie, donc vous n'avez pas beaucoup de données pour que vos intuitions soient utiles. Donc, vous devez en quelque sorte faire une analyse coûts-avantages ennuyeuse et peu sexy, et vous dire, oh, j'ai X% confiance en cette hypothèse ou celle-ci ou celle-là. Et donc, je pense que c'est un mélange de, vous savez, dans les situations où les gens se fient trop à leur intuition, dans des situations où ils devraient faire une analyse coûts-avantages, c'est une combinaison de ce qui est difficile, et des gens, et, genre, de la paresse intellectuelle. Idéalement, vous utilisez les deux modes, mais, ouais, et je pense qu'il y a eu beaucoup de mèmes qui se sont répandus du genre, votre intuition a toujours raison à 100%. C'est un outil assez utile, mais cela dépend du type de problème, et aussi de l'expérience. Ils ont un taux d'erreur. Vous savez, j'ai souvent joué au poker. Même quand j'avais de très bonnes intuitions sur les choses après des années de carrière, mon intuition était complètement fausse et cela me faisait perdre beaucoup d'argent. Donc, vous savez, écoutez votre cœur, mais utilisez aussi votre tête en même temps, en particulier sur les problèmes complexes qui comportent beaucoup de choses contre-intuitives. J'ai une dernière question, du genre oui ou non, et j'hésite vraiment à la poser parce que cela présente une fausse dichotomie et considère peut-être que les êtres humains sont dépourvus de pouvoir d'action. Mais, en termes d'avenir, en termes de litanie de problèmes auxquels nous sommes confrontés en tant qu'espèce, vous considéreriez-vous plutôt comme optimiste ou pessimiste? La première partie. La victoire m'a donné un optimisme que je n'avais pas avant. J'étais clairement pessimiste, très pessimiste, mais je pense que nous avons la capacité de résoudre ces problèmes, et je pense que, dans une certaine mesure, notre attitude envers eux, comme, vous pouvez reconnaître un problème sans être complètement découragé, et, vous savez, je pense que les pensées créent des choses. Et donc, si nous adoptons une attitude optimiste, mais aussi réaliste, vous savez, vous ne devriez pas dire que ces risques n'existent pas, reconnaître qu'ils existent, se dire, merde, les gars, il faut qu'on se ressaisisse, mais aussi croire qu'on peut se ressaisir, et je pense que tout ira bien. Fantastique. Merci beaucoup de m'avoir parlé. Merci.